Souleyman Hachmi, bonjour.
Bonjour.
Vous recevez ce matin Monsieur Jawed Bourkaïb, il est directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail.
Monsieur Jawed Bourkaïb, bonjour.
Bonjour.
Alors première question, toute simple, n'y a-t-il pas aujourd'hui des contradictions entre les décisions adoptées antérieurement, il y a à peine 4 ans, et celles entérinées dernièrement? Je parle bien sûr de la retraite proportionnelle avant l'âge de 60 ans. Elle était censée disparaître, être supprimée dans notre système de retraite, et il y a eu une tripartite consacrée à ce sujet, et puis là, hop, retournement de situation, on la maintient. On efface tout et on reprend. Que s'est-il passé, M. Bourkaïb?
Bien, donc pour la retraite avant l'âge de 60 ans, proportionnelle sans condition d'âge, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en tripartite, qui ont été après déclinées en groupe de travail. Des propositions ont été faites et ces propositions, bien entendu, doivent être maintenant concrétisées. Donc il faut aller vers l'adaptation du système national de retraite, notamment dans son volet retraite avant l'âge de 60 ans. Il y va du maintien des équilibres financiers de la Caisse nationale des retraites, il y va de la pérennité d'un système de retraite basé sur la solidarité intergénérationnelle, mais ces adaptations se feront sans atteinte aux droits des travailleurs.
Qu'est-ce que vous entendez par adaptation du système de retraite, M. Bourkaïb?
Vous savez, toute adaptation se fait de manière progressive. On ne peut jamais aller vers une suppression pure et simple, mais il y a des adaptations progressives, il y a des réflexions sur les adaptations progressives d'une part, et d'autres sur l'âge, sur les durées de cotisation pour le système avant 60 ans. Et la deuxième, c'est les recherches de sources de financement complémentaires pour consolider les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite.
Mais l'équilibre de la Caisse qu'on faisait valoir par rapport au départ anticipé ou la retraite proportionnelle qui risquait de déséquilibrer la Caisse aujourd'hui n'est plus valable?
Si, ça reste toujours une préoccupation parce que c'est des retraités, donc c'est des retraites précoces en fait. À l'âge de 50 ans, après à peine 50 ans et pour la femme même à partir de 45 ans.
15 ans de cotisation 15
ans
minimum.
15 ans de cotisation minimum, 20 ans de cotisation pour 50 ans. Pour l'âge 50 ans et pour les hommes. Donc ça reste des retraites précoces. Le contexte qui prévalait à l'époque n'est plus. C'était le programme d'ajustement structurel. On est plutôt dans une optique de création d'emplois, de relance, de baisse du taux de chômage. Donc il faut maintenant penser à rééquilibrer le système de retraite dans ses volets paramétriques et notamment le volet de la retraite avant l'âge de 60 ans. D'autant plus que les données démographiques ont également évolué et plaident dans ce sens. Mais ça ne nous dispense pas de rechercher des sources additionnelles de financement de notre système national de retraite. Il a été question de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté du taux de cotisation qui pourrait provenir des œuvres sociales, par exemple.
Mais quand vous parlez de rééquilibre, de déséquilibre, qu'est-ce qu'on doit retenir exactement? Quel est le niveau de financement de la Caisse aujourd'hui? Est-elle aussi vulnérable?
Actuellement, il y a, grâce à une trésorerie de la CNR, il y a donc couverture des dépenses. Avec les propres moyens de la CNR, il y a couverture des dépenses.
À hauteur de combien?
Complet, hein, une couverture complète des dépenses. Mais il faut penser à court, moyen et long terme à maintenir ces équilibres financiers. Il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait des déséquilibres comme ça se produit dans beaucoup de pays pour prendre des décisions. Il faut être préventif et dans ce sens, ça doit se faire avec la concertation de tous les partenaires sociaux et des adaptations progressives sans atteinte aux droits des travailleurs et surtout sensibiliser tous les partenaires sociaux sur la nécessité de garantir la pérennité d'un système qui est un joyau, qui est la solidarité intergénérationnelle. Les gens cotisent, payent des retraites d'aujourd'hui, mais ils auront leur retraite plus tard grâce aux cotisations de l'autre génération qui arrive derrière.
Quel est le niveau de financement de la Caisse aujourd'hui?
Il y a un équilibre financier par la trésorerie, donc il y a couverture des dépenses, mais ça ne nous dispense pas de l'adaptation qui doit avoir lieu.
Mais la retraite proportionnelle ne risque pas aujourd'hui de porter atteindre à cet équilibre financier de la Caisse, puisque c'est un problème qui a été évoqué il y a 4 ans
maintenu
lors de
en l'état,
dont
oui,
on a parlé au oui, début
maintenu,
de cette émission.
Maintenu
c'est la raison pour laquelle le gouvernement voulait la supprimer.
Oui, je dis bien que maintenu en l'état, le système de pré-retraite ne permet pas d'aller très loin dans les équilibres financiers. Il faut penser à adapter le système en concertation avec tout le monde.
Alors, la loi sur le mutuel social va-t-elle permettre l'amélioration de la couverture sociale des travailleurs en termes de prestations et de cotisations, puisqu'elle a été débattue et adoptée au niveau du Parlement et elle passe en ce moment au niveau du Sénat?
Oui, c'est l'objectif recherché. Je pense que ça va être une avancée majeure, puisque il va y avoir une intervention plus importante des mutuelles sociales en tant que deuxième pilier, parce que le premier pilier c'est la sécurité sociale pour la protection sociale, le deuxième pilier c'est le système complémentaire, il fonctionne selon les mêmes principes, solidarité, répartition, cotisation, répartition. Donc, il va y avoir d'abord introduction de la branche de retraite complémentaire. Donc, les personnes qui ont une retraite du régime de base pourront augmenter leur revenu à l'âge de la retraite grâce à une retraite complémentaire moyennant cotisation durant leur vie active. Et deuxièmement, il y aura une plus grande intervention des mutuelles sociales dans le domaine de la santé, de la protection complémentaire et moins, mais même supplémentaire à la sécurité sociale.
Mais justement, par rapport à la question que vous soulevez, les cotisations complémentaires seront-elles admises à l'avenir comme cela se fait dans les pays étrangers où un travailleur cotise dans plusieurs mutuelles pour percevoir une retraite conséquente?
Oui.
Ça donc, va être admis à l'avenir?
Oui, la loi le prévoit en tout cas. Donc la loi
cette
prévoit.
Nouvelle loi.
Donc pour d'abord, c'est un système volontaire. Donc tous ceux qui veulent cotiser un régime de retraite complémentaire, en plus du régime de base servi par la CNR ou la CASNOS pour les non-salariés, donc il y a un système de cotisation. Ce système de cotisation est volontaire. Et la personne qui cotise à une retraite complémentaire peut cotiser à plusieurs aussi retraites complémentaires, moyennant après, en recevant en retour, plusieurs pensions complémentaires à l'âge légal de la retraite.
Un taux fixé, oui, obligatoirement?
Oui, il y a un système de cotisation qui est mis en place en fonction du revenu de la personne pour garantir la solidarité. Et donc une cotisation équitable.
Alors c'est-à-dire en termes clairs, pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin, un travailleur qui peut-être collabore dans plusieurs secteurs, bien sûr dans le domaine privé, il peut verser plusieurs retraites dans plusieurs caisses à l'avenir.
Oui, tout à fait.
Et déclarer bien sûr tous ses revenus.
D'abord prioritairement dans la mutuelle de son secteur, parce que l'employeur est aussi impliqué dans cette histoire de retraite complémentaire, donc il faut qu'il y ait un accord collectif, les travailleurs adhèrent collectivement à une branche de retraite complémentaire du secteur. Dès lors qu'il est déjà donc adhérent à une retraite complémentaire du secteur, il peut aller aussi cotiser vers d'autres mutuelles qui sont donc constituées légalement et avoir en retour, comme je disais, en fin de carrière, plusieurs pensions complémentaires versées.
Une fois la loi adoptée et entériné et publié.
Bien entendu, il faut que la loi soit promulguée.
En attendant, ce n'est pas le cas. Alors justement, par rapport aux pensions de retraite, il y a certains qui perçoivent moins que le SNMG, or que ce n'est pas normal. Il y a eu des réévaluations durant l'année, durant le mois de mai, généralement. Cette année, la réévaluation a été d'un taux avoisinant les 10%, et quand même, avec l'inflation, ça reste faible. Est-ce qu'il y a d'autres réévaluations qui pourraient être envisagées par les pouvoirs publics aujourd'hui, au niveau de votre département ministériel? Plus exactement, monsieur Bourcaï.
Bon, d'abord pour les retraites, il y a eu beaucoup de revalorisations depuis les années 2000. Il y a eu les revalorisations annuelles chaque année à des taux maintenant depuis 4-5 ans très élevés.
10%.
À deux chiffres. Chose qui n'existe nulle part ailleurs. Je vous défie de trouver des revalorisations à deux chiffres dans un pays donné. Donc à deux chiffres, d'une part. En plus, il y a eu des revalorisations exceptionnelles sur le budget de l'État décidées donc par les plus hautes autorités de l'État. De 15 à 30% en 2012, avant 2009 aussi 5% exceptionnel en plus de la revalorisation annuelle, et également des indemnités complémentaires versées sur le budget de l'État pour les petites pensions et allocations de retraite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système de retraite est très large dans ses paramètres, c'est-à-dire on donne à hauteur de 2,5 points par année de travail. Mais tous ceux qui ont très peu travaillé dans leur vie, tous ceux qui ont eu des petits salaires dans leur vie, ils ne peuvent pas avoir une retraite. Celui qui travaille 5-6 ans ne peut pas avoir une retraite à hauteur d'un travailleur actif. Ça, c'est des règles universelles de répartition en matière de retraite. Alors ça d'une part. Mais l'État quand même verse un complément différentiel pour les petites pensions. Et il n'y a pas de pension moins de 15 000 dinars depuis 2012.
Eh bien, vous parlez de revalorisation. Il y a certaines pensions qui sont à hauteur de 13 000 dinars. Comment on peut les
expliquer ? Ce n'est pas des pensions de retraite. Ça,
c'est quoi ?
Ça doit être des allocations de retraite pour les gens qui ont travaillé moins de 15 ans, très peu, et donc ils ne peuvent pas avoir en retour, dans le cadre des règles de répartition, une retraite élevée. Parce que c'est une
mais
règle.
Mais ils ne sont pas réévalués,
parce que la pension de retraite est calculée en fonction des années de travail, des années de cotisation.
Mais ces allocations ne sont pas réévaluées annuellement également,
bien entendu,
M. Bourcaï?
Ils sont tous, toutes les pensions et allocations de retraite sont concernées par les revalorisations annuelles, mais ça dépend du nombre d'années travaillées et cotisées, et ça dépend également du salaire déclaré sur la base duquel sont versées les cotisations.
Nous avons combien de retraités actuellement?
Actuellement, la Caisse nationale des retraites sert près de 2 600 000 avantages de retraite entre pension et allocations de retraite.
Autre avantage pour les retraités aussi, c'est l'élargissement du tiers payant.
Oui.
Et cela se fait encore puisqu'il va y avoir aussi l'élargissement du tiers payant à tous les médecins prochainement, un accord étant en cours.
Oui, alors c'est vrai que les retraités ont été parmi les premières catégories d'assurés sociaux pour bénéficiaires du système tiers payant. C'est un système qui dispense l'avance des frais de soins de santé, c'est-à-dire c'est la caisse qui paye directement le pharmacien ou le médecin. Ils sont actuellement bénéficiaires du dispositif de médecin traitant, mais ce dispositif va être élargi à tous les malades chroniques en concertation avec tous les médecins, avec tous les organisations professionnelles. Il faut qu'on arrive à mettre en place un bon système tiers payant pour les actes médicaux.
Alors justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie, Monsieur Jawed Bourkaïm. Je voudrais revenir un peu sur ce que vous annonciez à la dernière partie de l'invité de la rédaction, dans sa première partie. Vous parliez de l'élargissement du tiers payant aux médecins traitants, et ça sera prochain. Tous les médecins traitants seront conventionnés à l'avenir ?
Ceux qui le souhaiteront. Puisque d'abord, on va essayer d'actualiser tous les compartiments de la convention actuelle. Nous avons invité vivement le président du conseil de l'ordre des médecins à assister à nos consultations. Nous allons aussi consulter d'autres organisations professionnelles. Mais il faut qu'on arrive à un bon dispositif qui permette d'abord de rendre service aux patients par le tiers payant des actes médicaux, des consultations, d'avoir une forte adhésion des médecins, et pour qu'ils puissent devenir des véritables partenaires de la sécurité sociale, promouvoir la qualité des soins, promouvoir la prévention, promouvoir la rationalisation de la dépense de santé, parce qu'il y a des mécanismes de rationalisation, et promouvoir l'intérêt général. Donc tout ça, nous avons beaucoup d'optimisme pour cet instrument qui est très important. Il faut qu'on y arrive dans les 3 mois à le mettre en place, et à le mettre en place au bénéfice des citoyens algériens.
Mais qui et combien seront concernés par ce conventionnement ?
D'abord, donc on passe de la population de retraités et des membres de leur famille à l'ensemble des malades chroniques, c'est-à-dire aux alentours de 3 millions de personnes qui sont donc actuellement recensées dans les registres de la sécurité sociale. Ces personnes-là n'auront plus à avancer les frais de soins de santé pour au niveau des médecins traitants et conventionnés. Il y aura une coordination. Il y aura une évaluation du système et il sera en perpétuelle évolution dans le but de l'amélioration de la qualité de la prise en charge.
Mais il y a un problème qui est aujourd'hui soulevé par les médecins traitants, c'est le niveau des honoraires fixés par la CNAS. Ils considèrent qu'ils sont en deçà des prestations qu'ils fournissent. Quel est votre commentaire
Alors,
à propos
commentaire
de cette question
est clair,
Est-ce qu'on
secteur,
peut avoir le montant fixé
le secteur de la sécurité sociale s'est résolument tourné vers un système qu'on appelle le système du tiers payant, en laissant un peu de côté le remboursement, c'est-à-dire l'avance des frais et présentation de la facture à la sécurité sociale qui occasionne des formalités administratives, etc. Le système tiers payant, le malade n'a pas à se soucier du paiement des honoraires ou des paiements des soins de santé, des frais de soins de santé. Donc ça, nous voulons le promouvoir. Nous le pratiquons pour le médicament auprès de plus de 10 000 pharmacies. Grâce à la carte Chifa. Nous pratiquons pour les dispositifs médicaux et appareillages médicaux avec l'ONAF. Hier, il y a eu une convention nouvelle qui a été signée avec de nouveaux dispositifs intégrés. Nous pratiquons dans le segment de la chirurgie cardiaque, dans le segment de l'hémodialyse, dans le segment du transport sanitaire, dans le segment de la lunetterie médicale des enfants d'âge scolaire et préscolaire, dont les enfants, enfants des assurés sociaux à revenus limités. Donc, tous ces segments rendent énormément service aux citoyens et nous allons encore l'élargir pour les actes médicaux. Bien sûr, ça sera des honoraires et des rémunérations d'actes qui seront faits en concertation avec les concernés, c'est-à-dire les médecins et les représentants des médecins, mais qui tiendront compte également des équilibres financiers de la sécurité sociale. Il faut qu'on ait une démarche citoyenne de part et d'autre.
Mais vous parlez des actes médicaux. Est-ce que vous avez fixé les honoraires ? Par le passé, vous étiez ici, dans cette même émission, et vous m'aviez donné le montant de 700 dinars pour un médecin généraliste et 900 dinars pour un spécialiste.
Actuellement.
Est-ce que c'est les montants qui sont toujours fixés ou alors vous allez les réactualiser, Monsieur Bourkaïm ?
Alors actuellement, ce qui est fixé dans la convention, c'est 400 qui peuvent être portés jusqu'à 600 dinars pour la consultation du généraliste et 600 qui peuvent être portés jusqu'à 900 dinars pour le spécialiste, parce qu'il y a des mesures incitatives financières en fonction donc du type de prescription, par exemple pour le produit générique, etc., et les produits fabriqués localement. Donc ça, ce qui existe actuellement. Mais dans la prochaine convention, donc l'évolution de la convention, ça sera des nouvelles rémunérations qui vont être fixées en concertation avec les concernés, et l'objectif, je l'ai cité tout à l'heure, sans oublier aussi les équilibres financiers de la sécurité sociale.
1900 dinars pour un spécialiste, c'est en deçà de la rémunération qu'ils perçoivent au quotidien. Un généraliste ici, au niveau d'Alger par exemple, ils sont aux alentours de 2000 à 2500 dinars.
Non, justement, c'est ces discussions, ces consultations qui vont nous permettre de se mettre d'accord sur un niveau donné qui tiendra compte de
toutes, si 2000 et 2500,
toutes les dimensions. Mais il faut savoir aussi que ce qui se pratique sur le terrain, il n'y a pas de référent. Vous avez, nous avons fait un recensement à l'échelle nationale, 48 wilayas, ça part du simple au double.
C'est
et
ça.
Donc il n'y a pas de référent. Et c'est pourquoi la convention va quand même fixer un référent pour ceux qui souhaitent adhérer à la convention. Bien sûr, j'ai dit, on tiendra compte de toutes les dimensions. L'essentiel, c'est qu'on trouve un consensus et qu'on puisse faire fonctionner un dispositif tant attendu par les assurés sociaux.
Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous dites à l'instant. Il n'y a pas de référent, mais est-ce qu'on peut considérer, c'est comme pour le marché, les prix sont libres ?
Vous savez, la loi prévoit normalement un texte pris par le ministère de la Santé pour fixer les tarifs réglementaires. Et il prévoit, et en même temps, la même loi prévoit des tarifs de référence de la sécurité sociale. Nos rémunérations de référence vont être dans la convention. Mais les tarifs réglementaires sont plafonnés, parfois plafonnés, mais la loi prévoit même des plafonnements pour les cliniques privées. Possibilité de plafonnement de certains. Il n'existe pas encore de texte réglementaire là-dessus. C'est la Sécu qui fixe ces tarifs de référence. Donc nous assumons notre mission de fixation des tarifs de référence et des rémunérations de référence des actes médicaux dans les conventions, comme nous le faisons pour la chirurgie cardiaque, l'hémodialyse, le transport sanitaire, l'appareillage médical, etc.
Mais est-ce que vous avez
et les médicaments.
Est-ce que vous avez recensé la population malade qui va bénéficier, bien sûr, de l'élargissement du tiers payant aux médecins traitants?
J'ai dit que c'était en priorité, dans une première phase, les malades chroniques. Et les malades chroniques, c'est aux alentours de 3 millions entre les deux caisses, donc qui gèrent la branche assurance maladie, CNAS et CASNOS.
Alors, vous parlez de l'équilibre financier de la CNAS. Est-ce qu'on peut parler d'un équilibre qui pourrait peut-être être affecté ou alors tout est bon en ce moment?
Vous savez, les équilibres financiers de la sécurité sociale actuellement sont là, donc sont maintenus, Dieu merci. Mais
Nous donner un montant pour l'équilibre de la CNAS?
Oui, il y a un équilibre. Il n'y a pas de déficit. Ça, je peux vous l'assurer.
Nous allons clôturer l'année avec le niveau des dépenses. À quelle hauteur? Supérieur à celui de l'année dernière?
Supérieur, bien sûr. La dépense santé évolue chaque année, mais nous essayons de la rationaliser pour qu'il n'y ait pas des dépenses donc superflues.
Elle est de quel ordre?
De 300 milliards de dinars. 300 milliards de dinars, la dépense de santé de la sécurité sociale, c'est-à-dire en comptant toutes les dépenses de santé gérées par la CNAS et la CASNOS.
Le forfait hôpitaux?
Forfait hôpitaux, il est de 65 milliards, c'est la contribution de la sécurité sociale pour les hôpitaux publics. Il a augmenté de près de 15% entre 2014 et 2015. Et donc cette augmentation maintenant, deux années successives, est à deux chiffres également. Donc la sécurité sociale est en train maintenant de travailler comment gérer au mieux les ressources disponibles et comment assurer la meilleure utilisation coût efficace des ressources disponibles. Et le leitmotiv, c'est toujours maintenir les équilibres financiers. Nous ne voulons pas connaître des déficits qui ont été enregistrés ailleurs.
Alors, combien de personnes bénéficient justement aujourd'hui de la carte Chifa? Est-ce que la population s'est agrandie?
Oui, alors donc pour la carte Chifa, nous avons franchi le seuil de 10 200 000 cartes établies pour le bénéfice un nombre de bénéficiaires de 34 millions maintenant, puisque la carte est souvent familiale.
Alors, autre question qui est d'actualité pour les remboursements des médicaments, un problème ou des prestations médicales. Un problème demeure, les malades déplorent le fait qu'ils cotisent et que les prestations au niveau du privé ne soient pas remboursées. Pourquoi, M. Bourcaï?
Non, j'ai expliqué le champ d'intervention de la sécurité sociale. J'ai planté le décor, je pense, par rapport au système du tiers payant et j'ai annoncé les perspectives. Ça, c'est pour tout ce qui touche les actes médicaux. Il y a tout ce système qui intervient en appui au système public de santé. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, dans notre pays, le système prépondérant, qui doit être toujours prépondérant, prééminent, c'est le système public de santé. La sécurité sociale apporte une contribution pour ce système.
Mais le travailleur, il cotise,
et bien sûr, il y a une cotisation.
Il a droit à des remboursements.
Bien sûr. Et j'ai dit que la sécurité sociale intervient dans les gros risques pour garantir l'accessibilité, appuyer le système public de santé dans le privé. Le privé est un système complémentaire au système public. J'ai cité tous les segments où il y a un système de tiers payant et j'ai annoncé les perspectives pour les actes et consultations médicales au niveau du médecin traitant qui permettront aussi d'élargir le champ d'accessibilité aux soins.
Mais vous parlez de perspectives. Est-ce que éventuellement, à l'avenir, vous pensez peut-être en rembourser les prestations fournies au niveau, par exemple, d'une clinique privée? Et vous savez que c'est excessivement coûteux.
Alors, pour ce qui est donc de l'intervention, je crois qu'avec le dispositif du médecin traitant, nous aurons déjà réglé 80% des couverts, les 80% de ce que demandent donc les assurés sociaux au niveau du secteur privé. Et ça sera fait de manière, comment dire, rationnelle, puisque le médecin traitant sera la coordination des soins.
Mais pour les cliniques privées, monsieur Bourcaï,
il faut dire qu'il y a des segments qui sont couverts actuellement, et il y a aussi un système public de santé qui doit être, donc qui est là, qui doit couvrir aussi les gros risques, parce que c'est l'hôpital public qui couvre les gros risques et qui devrait couvrir les gros risques et les grosses interventions. Et pour cela, la Sécurité sociale verse 65 milliards au titre de l'année 2015, versera au titre de l'année 2015, et chaque année, il y a une évolution de ce forfait hôpitaux.
Alors, autre question, c'est l'élargissement de la couverture de la sécurité sociale à des franges qui étaient jusque-là exclues du système. J'emploie le terme exclu, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais ils étaient exclus, c'est la réalité.
Alors d'abord, la sécurité sociale en Algérie est accessible à tout le monde, sauf ceux qui veulent fuir le système, qui ne veulent pas déclarer un travailleur, et pour ça il y a des contrôles, il y a des sanctions, mais il y a des gens qui arrivent à fuir le système, c'est dommage parce qu'il y a une couverture qui est en contrepartie accordée. En termes de protection soins de santé et de revenus de remplacement quand on tombe malade ou quand on arrive à l'âge de la retraite. Donc ça, c'est important. Il y a un contrôle, il y a des sanctions, mais il y a aussi une sensibilisation auprès des employeurs et auprès des travailleurs pour qu'ils prennent conscience de l'intérêt de l'affiliation à la sécurité sociale. Mais malgré ça, il y a toujours des hiatus, c'est-à-dire des zones où la personne peut être dans un moment de sa vie perd la qualité d'assuré. Je cite par exemple l'étudiant
c'est une bonne nouvelle pour les étudiants ce matin.
Qui termine son cursus universitaire, qui est à la recherche d'un emploi. Il y a quelques mois qui s'écoulent, voire même années, au cours desquels il n'y a pas donc l'intervention de la sécurité sociale, parce qu'ils ne sont plus étudiants, ils ne sont pas travailleurs. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'élargissement de la sécurité sociale. Il y a d'autres catégories. La sécurité sociale a de nouvelles catégories, moyennant des cotisations sur le budget de l'État, dans le cadre de ce qu'on appelle les catégories particulières d'assurés sociaux. Au moins, ils auront une couverture assurance sociale, maladie et soins de santé.
Vous allez l'élargir aussi à ceux qui activent dans l'informel, monsieur.
Alors,
aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est une façon de les insérer dans le formel.
Il faut savoir que tous ces travaux et ces réflexions interviennent dans le cadre de l'application du programme du gouvernement, qui inscrit donc l'élargissement de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de personnes. Alors pour ceux qui travaillent dans l'informel, je pense que l'État est en train de faire beaucoup pour les inciter à aller vers le formel. Et la sécurité sociale va appuyer cette démarche en leur permettant une affiliation volontaire pendant une période transitoire.
De combien de temps ?
Qui ne peut pas excéder les 3 années, pour qu'ils accèdent au secteur formel et qu'ils aient une couverture pendant cette période et qu'ils puissent après racheter leurs années à concurrence de la phase transitoire au titre de la retraite.
À partir de quand ça sera en vigueur, monsieur Bourcaï? Dernière question.
Je ne peux pas vous dire. Nous sommes au stade des travaux techniques qui vont être soumis, bien sûr, à arbitrage, et dès que le décret sera publié. Donc il y a un décret qui doit consacrer tous ces travaux.
2015?
Oui, je pense bien, oui.
Monsieur Jawad Bourcaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon week-end.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom.